Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le 58e Super Bowl connaît maintenant ses finalistes. Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco ont rendez-vous dimanche le 11 février à Las Vegas. Fin de la route pour les Ravens de Baltimore et les Lions de Détroit. Est-ce que l'avenir est rose pour les équipes qui ont vu leur rêve mourir avant de se rendre au Super Bowl? Qui remportera le trophée de la recrue de l'année? Qui sera l'entraîneur de l'année? Et qui sera le joueur le plus utile de la NFL? On fait le tour des trophées dans la zone payante. La période de signature des joueurs autonomes arrive à grands pas. Et on vous dresse le portrait des 10 agents libres qui seront les plus convoités. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar. De savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de La Zone Payante, la 26e émission de cette saison, la 5e saison de La Zone Payante. Vous êtes sur Cube, c'est un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné et je suis accompagné de l'expert football du Journal de Québec et de Montréal, que vous voyez avec moi, Stéphane Cadarette. Salut, Steph!
Salut! Hey, tout juste de retour à la maison, puis je m'apprête quasiment à repartir. On appelle ça vivre dans ses valises.
Eh oui, c'est incroyable, la belle vie de journaliste. C'est ça le rêve. Tu sais, quand t'es à l'école, puis t'es à l'université, puis là, tu te dis, hey, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être plus grand? Puis là, je veux dire, être journaliste, c'est comme couvrir la planète au complet, vivre dans ses valises, être le Tintin du football.
Au début, tu te dis, je vais jouer dans la NFL, mais là, j'ai bien vite réalisé après mon parcours secondaire que ça ne marcherait pas. Fait que t'essaies de te rapprocher du rêve, tu sais.
Fait que là, t'en parles en place d'en faire.
Ah oui, c'est ça.
Mais t'es pas comme Tintin, là. Tintin, il écrivait jamais l'article. Toi, au moins, t'en écris. Puis des bons, là. Je veux pas te flatter dans le sens du poil, là, mais ton voyage à Baltimore a fait en sorte que t'as fait des textes formidables. J'invite les gens à aller les lire. Pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis comment ça a été, en fait, là, revenons rapidement sur les matchs, le match que t'as couvert, les matchs de la fin de semaine, en fait. Donc, on le disait, t'étais à Baltimore pour le match Chiefs contre les Ravens. Encore les arbitres qui ont fait gagner les Chiefs.
Ah bon, t'es-tu dans ce gang-là?
Ben non, pas en tout. Pas en fin de semaine, en tout cas. Personne ne peut dire que c'est les refs qui ont joué dans le game. Là.
Non, j'ai pas vu de call controversé. C'est sûr que les fans des Ravens vont peut-être chialer contre une coupe d'appel, mettons, pour rudesse, mais tu sais, il y a pas eu de controverse. Là. Non, ça n'a pas été l'histoire du match du tout. Là. T'sais, les Ravens se sont tirés dans le pied. Oui, c'est une belle victoire des Chiefs, mais les Ravens, vraiment, ils ont joué un peu en bully, là, tu sais, ça jouait rough pour rien. Lamar Jackson, ça a été un dur match. Tu sais, je pense qu'au milieu du troisième quart, il y avait de quoi comme 60 verges. Là. Ça a été pénible.
La bonne nouvelle, c'est que la plus belle histoire de la NFL va faire son chemin jusqu'au Super Bowl.
Oh, et ça, non, commence pas.
Et ça me réchauffe le cœur. De savoir que l'histoire de conte de fées, une histoire là, dont on entend parler pas assez à mon goût, si tu veux mon avis, là, je pense qu'on devrait mettre encore plus l'emphase sur cette belle histoire d'amour qui représente à quelque part aussi le yin et le yang. C'est comme si on disait l'Israël et la bande de Gaza. Tu sais, pour moi, ça va chercher une espèce de paix intérieure. Vraiment, là, c'est un bonheur de voir Travis Kelce, Taylor Swift se rendre au Super Bowl en amoureux. Et j'espère qu'il va y avoir la grande demande lorsque les confettis tomberont du ciel et Charrie.
Mais écoute, premièrement, ils se rendent pas ensemble au Super Bowl. Elle va être à Tokyo, là.
Oui.
Fait que là, c'est une petite nuance, on en reparlera, mais là, écoute, t'es-tu tombé pour vrai là, sous le charme de cette idylle?
Moi, là, les deux plus belles histoires dans la NFL, c'est le jeune Brock Purdy à sa deuxième saison qui sera en Super Bowl.
Ouais, ça, c'est beau, ça.
Et l'amour qui fait son chemin. L'amour a pris son temps, mais il finalement se rendra au Super Bowl. Là, je fais des blagues, là. On le sait, là, que en tant qu'amateur de football, c'est le cauchemar redouté, là. Que là, ça va être... Non, mais c'est pas des blagues. Là, c'est 100% du monde qui va être intéressé au Super Bowl. Ouais.
Ça fait juste commencer. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant que média. Là. On le sait qu'on est dans la parade aussi. Tu sais, il faut pas se cacher la tête dans le sable. Puis, moi, je me fais pas de cachette là au Super Bowl. C'est certain qu'il va falloir en parler. Puis, on va essayer de pas le faire jusqu'à plus soif comme... dans certains médias, mais ça va faire partie de la donne. Tu sais, tu peux plus l'éviter. Tous les médias sont là-dessus. Mais écoute, moi, j'espère qu'on va pouvoir focusser sur le match quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui disent... Tu sais, j'ai fait un petit sondage rapido sur Twitter l'autre jour après les deux matchs. C'est-tu un match-up qui vous intéresse? Il y en a qui disent oui, mais il y en a quand même pas mal là, qui disent « Ah non, là c'est redondant, bon. Ça a eu lieu il y a 4 ans. » Moi, je suis pas d'accord. On pourra reparler plus du match la semaine prochaine.
Exact. Là, finissons, disons, mais... l'autopsie des deux défaites là rapidement, ouais. Parce que je pense que il y a beaucoup de choses à dire sur les deux matchs qu'on vient de voir, qu'on a vu en fin de semaine. Je pense que c'est aussi intéressant d'en parler cette semaine parce que ça va donner un peu d'indice à quel genre d'opposition les 49ers et les Chiefs vont pouvoir s'attendre. Premièrement, j'aimerais ça que tu me parles du match des Chiefs. Ils ont quand même donné seulement 10 points. Tu vas me dire, ils en ont juste marqué 17, là, puis il y a eu des moments où ils faisaient pas bien beau. Mais est-ce que la défensive des Chiefs peut gagner le match contre San Francisco de la façon dont on a vu San Francisco remonter contre Détroit, là?
Ouais, la défense des Chiefs, là, j'espère que le monde commence à y croire, là, tu sais... On a été tellement habitués dans les dernières années que c'était Mahomes et le reste, là, tu sais, Mahomes qui traînait un peu ce club-là. La défense, tu sais, a toujours été opportuniste, là, celle des Chiefs.
Mais c'est-tu les Ravens qui n'ont pas été bons ou?
Non, mais hey, on voit ça depuis le début de l'année. On voit ça depuis le début de l'année.
10 points.
Je comprends. Les Ravens ont
fait. Contre le MVP.
Ouais, les Ravens, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait, en fait, là, c'est qu'ils ont perdu leur identité. Ils ont vraiment pas établi le jeu au sol. Ils sont pas accrochés. Je pense qu'il y a 5 courses seulement des porteurs de ballon, là. Il faut le faire, là. C'est vraiment, là, décevant de ce côté-là.
3 revirements.
Mais ça serait fou de pas donner de mérite à la défense des Chiefs, là. Vraiment, ils appliquent la pression beaucoup. Carl Aftis, on le voit tout le temps dans le champ arrière. Chris Jones, écoute, il y a de quoi là dans cette équipe-là. Puis la tertiaire qui mérite son dû aussi, là, Snead et McDuffie, c'est tout un duo de demi de coin. Vraiment, là, moi j'y crois à cette défense-là, personnellement. Nick Bolton dans le milieu, c'est parfait. Beaucoup de jeunes aussi dans cette unité-là. C'est prometteur. T'sais, les Chiefs ne reposent plus seulement sur Pat Mahomes, sont capables de gagner des matchs de différentes façons. Puis ça, ben quand t'es une équipe, c'est ce que tu veux voir. Ça peut pas toujours tenir du miracle puis d'une passe à l'arraché puis d'un angle complètement ridicule. Il y a un moment donné où ça marche pas.
Transportons-nous alors dans la baie de San Francisco, le match qu'on n'attendait pas là. Partir aussi fort pour les Lions, ça peut-être. Donner l'impression que les 49ers allaient pas remonter, mais est-ce que c'est la décision de Dan Campbell de pas y aller pour 3 points quand on venait de donner un placement à l'autre côté?
Ben, bon,
parle-nous un peu de ça, parce que je sais qu'on a eu une discussion, nous deux, sur Twitter, tu sais.
Ouais.
Moi, j'étais déçu de Dan Campbell, un coach que j'aime bien, qui a pas su s'adapter au moment. Mais en même temps, il va-tu se dénaturer, comme tu disais? T'sais, il a fait ça toute l'année, là, aller à des...
Ouais. Le problème, c'est le timing, le contexte. Il l'a fait toute l'année, ça a porté fruit au Lyon, ça leur a permis de développer une culture, une identité plus agressive. T'sais, ça, pour ça, chapeau. Puis quand il réussissait, ben on disait, ah, Campbell, c'est un génie. Il amène les Lions à un autre niveau. Là, il a raté, mais c'est le contexte que j'aime pas. Tu sais, c'est 3e quart. Les Niners sont pas vraiment dans le match. Ils perdent par 14 à ce moment-là. Tu t'en vas chercher le placement. Tu t'assures de mener par 3 possessions. tu sais, je pense que c'est important là, à ce moment-là de prendre les points. Le deuxième placement, ben, c'est pas que je vais le défendre. Là, le deuxième, quatrième essai, c'est-à-dire plus tard au quatrième quart, là, c'est pas que je veux le défendre, mais je peux comprendre que là, il sentait que l'attaque des Niners reprenait le momentum du oui. match. Puis tu veux essayer de les casser, tu sais, de briser l'élan d'une façon. Sans défendre la décision, je comprends. Le troisième quart, ça, je comprends moins, par contre. Parce que tu te serais donné une avance de 17.
Ben là, il y en a qui vont dire, trois points.
Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis là, bon, il y en a qui vont dire, le botté, c'était pas assuré qu'il l'aurait eu. Non, mais écoute, tu donnes les chances, là, d'aller chercher ces points-là relativement facilement. Ça, j'ai de la misère. Mais de là à dire, tu sais, j'en vois qui disent, ils ont perdu à cause de lui. Il y a quand même d'autres facteurs. Tu sais, t'as un Josh Reynolds qui a échappé deux passes. Il y en a eu d'autres moments dans le match. Là.
Il a échappé quand le momentum était parti à cause du... Tu sais, c'est évidemment, là, je dirais jamais qu'un match de football se décide sur un jeu. Là. Il y a tout le temps des choses à qui tu repenses, mais le momentum, là, je sais qu'on rit de ce mot-là, là, mais ça a switché pour à peu près ce mois-là.
Ça a switché vraiment. Tu sais, fait que non. Puis on a, combien de fois on en a parlé avec Brandon Staley, avec les Chargers, tu sais, que... Oui, être agressif, c'est une chose, c'est bien. De plus en plus d'équipes, là, c'est pas les seuls là, qui essayent des quatrièmes essais. Mais à un moment donné, prends conscience, douter sur le terrain. C'est quoi le pointage? C'est quoi l'allure du match? Tu sais, il y a un contexte qu'il faut considérer au-delà des
J'ai vu des choses circuler sur le net. Puis là, tu voyais, mettons, Dan Campbell habillé en joueur de blackjack, tu sais, qui recevait 20 puis qui disait hit me, tu sais. mais c'est un peu ça là, tu sais, c'est ouais. si tu reçois 19 puis la banque a 14, ben peut-être que tu vas rester à 19 là. Mais si tu reçois 18 puis la banque a 20, peut-être que tu vas y aller pour un, tu sais, pour un 3 points, pour essayer d'avoir 3 ou 2.
Ouais.
Tu sais, il faut s'adapter au contexte, mettons, dans ce cas-ci. Hey, j'aimerais ça que tu me juste rapidement qu'on fasse un peu le tour de ce qui se passe du côté des entraîneurs-chefs puis des entraîneurs aussi. J'ai vu plein de monde bouger, tu sais, on en a parlé un peu la semaine passée, on avait parlé déjà de Harbaugh qui avait signé à Los Angeles. Mais là, c'est comme la vague un peu, la valse des coordonnateurs offensifs, défensifs. Y a-t-il quelque chose d'important qu'il faudrait que tu nous dises à nos auditeurs?
Ben, est-ce qu'on avait parlé la semaine passée de Raheem Morris, là? Je me souviens même plus si on était rendu là. Raheem Morris à Atlanta, la nouvelle là-dedans, c'est que ça ferme la porte au nez de Bill Belichick. T'sais, c'était là que c'était le plus sérieux. Il y avait une deuxième entrevue. T'sais, on sentait qu'il y avait un intérêt certain pour lui. Je suis surpris qu'on s'en aille du côté de Morris. J'imagine que là, Belichick, en ce moment, je vois pas, là. T'sais, il ira pas à Washington, il ira pas à Seattle. C'est les deux dernières ouvertures cette année. Là, il y en a beaucoup qui mentionnent qu'il pourrait aller dans les médias, là, faire un... Parce que c'est drôle, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, il est plate, Belichick. Il est plate en conférence de presse, mais c'est un gars qui, si tu le mets à télé, dans un rôle plus détendu d'analyste, il va apporter du bon stock, tu peux me croire, là, tu sais. » Mais ça reste que c'est pas ça qu'il veut faire pour l'instant, là. Mais Raheem Morris...
Mais qu'est-ce qu'il a fait, Raheem Morris, pour... Tu sais, je veux pas comme juger Atlanta, mais là, t'as un coach qui a gagné 6-7 Super Bowl, puis t'en as un qui a jamais rien fait. On va prendre Raheem Morris.
Ouais, Raheem Morris, écoute, là, il s'était refait une certaine réputation parce qu'il avait déjà été coach, lui, quand même, dans les... C'était-tu de 2009 à 2011 avec Tampa? Il me semble que c'est dans ces années-là, là, de mémoire. Puis il avait pas fait de miracle là. Il a droit à une deuxième chance, mais j'aurais aimé à Atlanta quelqu'un qui a un peu plus de prestance, d'autorité pour vraiment changer ce programme-là, cette culture-là. On verra ce que ça va donner. Dave Canales aussi en Caroline, c'est drôle parce que c'est pas un nom qui était très connu. Il est une seule année comme coordonnateur à l'attaque à Tampa cette saison. Fait que c'est sûr qu'on a vu le bien qu'il a fait à Baker Mayfield, mais il reste que c'est pas beaucoup d'expérience dans un haut niveau de coaching. On dit que c'est un gars qui est très énergique, très positif, apprécié des joueurs. Mais dans un rôle de coach en chef, des fois, là, tu sais, ça prend peut-être plus. J'ai hâte de voir, mais je suis pas convaincu ça non plus. Puis c'est drôle, je l'avais mentionné, lui, dans mes candidats surveillés quand on s'était parlé de qu'est-ce qui allait arriver avec les coachs, mais à Seattle. Parce qu'il a passé pas mal d'années dans cette organisation-là avec Pete Carroll. Mais de le voir finir en Caroline, je suis assez surpris. Puis tu me parlais des coordonnateurs, juste faire une tournée rapido, là. Ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est Philadelphie. On a été chercher deux très gros noms. Kellen Moore à l'attaque, qui a fait ses classes avec les Cowboys puis les Chargers l'an passé. Puis Vic Fangio, on en avait parlé là pour la défense. Ce que ça me dit à Philadelphie, là, c'est qu'on a dit à Nick Sirianni, écoute, là, tu t'entoures très, 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 très bien parce que sinon, c'est toi qui lèves les feutres. Puis ce que ça dit aussi, c'est que l'an prochain, il y aura pas long de corde, là, Nick Sirianni, je pense. En tout cas, tu sais, quand tu t'entoures de personnalités fortes comme ça, des noms qui parlent, qui ont résonance à travers la ligue, là, qui ont déjà eu Fangio a déjà été entraîneur-chef, mais Moore a déjà eu des entrevues aussi là, pour être entraîneur-chef.
Ça fait des beaux coachs par intérim, ça.
Ça a besoin de marcher vite l'année prochaine. Puis Arthur.
Ah oui, mais partisans des Eagles sont patients, là, si tu te trompes.
Ouais. On va être très patient. Ça va y aller. Puis Arthur Smith, qui se ramasse à Pittsburgh comme coordonnateur offensif, il se retrouve du travail, c'est bien, parce qu'il avait bien fait dans ce rôle-là à Tennessee. Tu sais, je pense pas qu'il faut partir du principe que tel head coach a pas eu de succès, donc forcément, il devrait plus reprendre un job comme coordonnateur. C'est souvent dans ces postes-là que les gens sont les meilleurs. Fait que, à voir, mais je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Pittsburgh. Il reste qu'il faut se trouver un corps arrière plus sérieux, je pense, que Kenny Pickett.
Merci Stéphane, on s'arrête, on revient tout de suite.